Vous savez, il y a cet échange dans le Don Quichotte de Cervantes où le Quichotte nous fait une grande leçon qui se veut absolument brillante, où il explique que le monde est un théâtre et le théâtre est un monde. Alors il dit avec beaucoup d'emphase, aucune comparaison ne saurait en effet nous retracer plus au vif ce que nous sommes et ce que nous devrions être que la comédie et les comédiens. Et il poursuit en parlant de la comédie de ce monde où l'on trouve autant de personnages qu'on en peut introduire dans une comédie. Et à ce moment-là, son fidèle Sancho Panza lui répond que cette comparaison n'est pas nouvelle. Il l'a entendu bien des fois. Autrement dit, ce que nous sert Don Quichotte, c'est un bon gros cliché. Il enfile des perles et des banalités, à commencer par cette idée du grand théâtre du monde. Vous savez, le Theatrum Mundi que l'Europe du siècle d'or, en Espagne, en France, en Italie, en Angleterre, adore. Vous savez peut-être que le théâtre de Shakespeare s'appelait le Globe, qu'il en avait la forme et qu'à l'entrée, on pouvait y lire « Le monde entier est un théâtre ». Totus mundus agit histrionem en latin. En fait, toutes les déclinaisons de cette phrase dans les pièces de théâtre, ce sont des lieux communs. C'est-à-dire des phrases creuses qui sont tellement établies qu'elles ne servent à rien. C'est du remplissage, c'est du langage. Ce sont des mots qui sont figés au point qu'on les retrouve aujourd'hui dans nos dictionnaires de citations, vous savez. Au point qu'on les utilise pour briller dans les salons, sans même qu'on se rende compte qu'à l'époque déjà, on s'en moquait volontiers.
Boomerang. Boomerang. Augustin Trapenard.
Bonjour à tous, bienvenue dans Boomerang. De quel monde vient mon invité d'aujourd'hui, comédien, sociétaire de la comédie française, mais aussi metteur en scène et écrivain? Il vient de faire paraître Les Nuits d'amour sont transparentes, un journal de bord dans lequel il relate la naissance du spectacle La Nuit des Rois de Shakespeare il y a 3 ans, dans la mise en scène de Thomas Ostermayer. C'est un récit de coulisses dans lequel il se livre comme jamais, à mon avis. Bonjour Denis Podalydès.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être avec nous ce matin. Alors quel monde est-ce que c'est le théâtre pour vous, Denis?
Ah, ça peut être le monde lui-même. Il y a des époques où c'était le tout du monde, c'était la salle de répétition. J'ai adoré, j'adore toujours la salle de répétition.
C'est un monde aussi qui prend forme par les mots, par le langage, le théâtre.
Alors ça, je crois que moi j'ai un pied qui est dans l'amour de la littérature et des mots, et l'amour de l'histrionisme, du jeu d'acteur, avec tout ce que ça implique de cabotinage. J'ai ça en moi, quoi. Voilà, une pulsion de jeu et une pulsion de dire.
Mais vous savez, le metteur en scène Thomas Ostermayer, dont vous reprenez les mots, dit que le théâtre, à l'époque de Shakespeare, supposait une confiance dans le langage, une confiance qu'on n'a plus. Cette phrase, comment vous l'entendez-vous? Qu'est-ce que vous en faites?
C'est vrai que quand le théâtre au siècle de Shakespeare, c'est une forme assez nouvelle en fait. Ça n'a pas vraiment, depuis l'Antiquité, il n'y a pas vraiment eu de théâtre. Et soudain, des artistes, au milieu de battleurs, au milieu de jongleurs, de dresseurs d'ours, se mettent à dire des textes composés par d'autres. Et alors là, ça stupéfie tout le monde.
Et on les entend puisqu'on les voit.
Exactement. Ben, de toute façon, au théâtre, on entend toujours beaucoup plus ce qu'on voit. Ça va beaucoup plus vite ce qu'on entend que ce qu'on voit. Au cinéma, c'est très différent. Les images bougent tout le temps, tandis qu'au théâtre, ce qui est en mouvement, c'est les mots, c'est la langue. Et donc, il y a des gens comme Shakespeare qui se mettent à faire un spectacle de ces mots-là.
Vous savez, je trouve ça passionnant. Les mots, qu'est-ce qu'ils représentent pour le comédien que vous êtes, en fait, Denis Podalydès? C'est une matière, c'est...
Oui, c'est une matière... C'est très difficile. Alors c'est assez dur à mettre en. C'est aussi pour ça que j'écris sur mon propre métier, parce que c'est assez dur à dire ce qui se passe quand on vient devant une salle et qu'on dit notamment les mots d'un grand poète. Est-ce que c'est une. Pour moi, c'est de la matière presque tactile. J'essaie de. Les acteurs qui m'ont souvent marqué, c'est des acteurs qui dressaient devant nous les pages d'un texte comme si c'était quelque chose de tangible, oui. Comme si c'était quelque chose qu'on finissait même par voir.
Mais à force de décortiquer un texte, de traquer derrière chaque mot une allusion cachée, un double sens, un double entendre, est-ce qu'on finit pas par l'épuiser, ce texte ?
Non, j'ai l'impression que non, parce que nous nous transformons avec le texte se transforme, et aussi selon celui qui l'écoute, selon l'atmosphère de la salle, du soir, la pièce, on sent qu'elle prend une tournure, surtout des pièces comme les pièces de Shakespeare qui sont incroyablement plastiques, mobiles, changeantes. D'un soir à l'autre, on sent que tel ou tel passage prend davantage, on se sent soi-même parfois dans une forme particulière, qui fait qu'on arrive à imprimer aux mots une force, une densité, une énergie qu'on n'a pas un autre soir.
Ce que vous nous dites en creux, Denis Podalydès, c'est que le travail précis sur les mots, ça vous permet de mieux vous saisir d'un texte, de mieux l'incarner, tout simplement.
Oui, et puis alors ça vient énormément du travail de répétition, parce que ce n'est pas naturel de venir dans une scène et de jeter les mots d'un texte. Il faut les avoir, il faut quelquefois un long temps d'incubation, travailler avec un metteur en scène, travailler avec des partenaires.
Quelle responsabilité est-ce qu'on a vis-à-vis d'un texte quand on est comédien ?
Moi, la première responsabilité, c'est la clarté, le sens, c'est de là, tout procède de là. J'essaie de donner aux mots la plus grande clarté, le plus grand rayonnement. Surtout quand c'est de la langue les mots de Shakespeare, donc ils sont déjà passés par le tamis d'une traduction. C'est pas toujours aisé d'en faire passer le sens, donc c'est mon premier devoir. Ensuite, une fois que le sens est clair, il se passe quantité d'autres choses qui vont du rire à l'émotion.
Et c'est intéressant parce que vous en parlez dans votre livre, en fonction des pays et des époques, on n'incarne pas les mots de la même façon. Tout dépend du style de jeu en vigueur. Aujourd'hui, par exemple, au théâtre français dont vous êtes, je le rappelle, sociétaire, quel est le style de jeu en vigueur ?
Alors, je me suis beaucoup interrogé là-dessus.
Ouais.
D'abord, par inquiétude, est-ce que moi, je fais partie d'une école révolue ou est-ce que d'une école qui a une certaine pertinence encore dans le présent. J'ai vu le niveau de voix des acteurs changer dans les 25 dernières années. Je crois qu'on parlait beaucoup plus fort. Il y avait toujours, notamment la comédie française, une sorte d'éthique du comédien où le comédien parle avec une voix large qui porte dans la salle.
Ça veut dire qu'on va vers plus de simplicité aujourd'hui ?
Il me semble. Le théâtre allemand nous a beaucoup influencé, notamment moi, mais les professeurs que j'ai eus, de Jean-Pierre Vincent, même Chéreau ont été influencés par le théâtre allemand, issu de Brecht, où le jeu était très épuré, peu de gestes, limiter aussi les décibels, de façon à ce que le sens soit premier et à ce que le texte ne soit pas surligné par la voix du comédien.
Mais c'est intéressant ce changement en fait. Et où est-ce que vous vous situez vous ? Quel genre de comédien est-ce que vous étiez à vos débuts en sortant du conservatoire ?
Alors, je crois que j'étais un comédien, j'allais dire interlope. j'étais un peu entre deux eaux. J'ai eu un peu de mal en sortant du conservatoire parce que j'étais aussi encore concerné par des études littéraires que j'ai maintenues longtemps, avec la certitude que j'aurais du mal à m'imposer sur les scènes et qu'il fallait. Je me disais dès que une période de chômage sera trop longue, je reprendrai mes études de philosophie et je deviendrai professeur.
Mais dans le style de jeu, vous cherchiez, semble-t-il, le naturel de Denis Podalydès. Qu'est-ce que c'est le naturel pour un acteur ?
Alors c'est la grande question.
Eh oui.
Qu'est-ce que c'est ? Je pense en fait le naturel, c'est une sorte d'adéquation entre soi, un metteur en scène, un texte, une langue, des autres, quelque chose qui donne le sentiment que non seulement d'une aisance, mais pas d'une aisance forcément virtuose, d'une simplicité, d'une clarté de jeu.
Est-ce que ça se construit ou alors ce que
nous là ? Alors je pense si ça se construit, mais en même temps il y a eu quelque chose qui est assez. Je me rappelle, j'ai un acteur pour moi qui était le comble du naturel, c'était mon ami Eric Elmosnino.
Oui.
C'était ma référence. Il y avait lui, Patrick Pineau, Jérôme Kircher, et je leur enviais cette. J'avais l'impression qu'il y avait pas d'obstacle qui se dressait entre leur volonté de jouer et le jeu, entre le texte et la parole vive. C'est-à-dire par exemple Eric, il parlait de la même façon dans la vie et sur la scène. Alors ça, pour moi, c'était un critère. Et j'avais l'impression que moi, sur la scène, ma parole était différente de ce qu'elle était dans la vie. Et que donc, là, je n'atteignais pas ce naturel. C'était à la fois des fantasmes, c'était des choses un peu de souffrance, et en même temps, c'était un horizon. Et parfois, soudain, je me rappelle qu'un jour, dans ma salle de bain, j'ai dit la phrase, c'est idiot, je ne sais pas, je ne sais pas. Et je me suis entendu dire ça très naturellement. J'ai dit, je ne sais pas, d'une manière émouvante qui m'a ému.
Vous aviez atteint quelque chose.
Ouais. Et j'ai eu le sentiment d'atteindre un certain naturel en disant, je ne sais pas, je ne sais pas.
Là, vous l'avez un peu trop surjoué.
Là, je l'ai surjoué. Ouais, vous voyez, ouais. Ça m'était venu, ça m'avait traversé. Et après, je me suis dit, si dans mes textes, je mets la même spontanéité ou la même inflexion, je vais atteindre enfin ce naturel.
Au fond,
c'est un tissu de fantasme, mais c'est en même temps une source de travail. Quoi.
Au fond, Denis de Podalydès, qu'est-ce qui est de plus naturel en vous aujourd'hui ?
Ah. peut-être ce qui est de plus naturel en moi, c'est le père que je suis devenu.
Oh, c'est une belle réponse.
Je dis ça sans doute parce que mes enfants m'écoutent. Je ne dis pas simplement pour ça, mais parce que ce texte aussi est venu du fait que j'ai à une certaine époque tout donné à ma vie d'acteur, et aujourd'hui la vraie vie me requiert énormément, et j'essaie de faire en sorte que ça s'équilibre, mais que ça communique. Peut-être.
Vous savez qu'il y en a une qui manque beaucoup de naturel dans cette émission, sans doute la connaissez-vous, Denis, c'est évidemment la culture et son actualité. Toute m'as-tu vu au possible, que se passe-t-il donc aujourd'hui, vendredi 5 novembre ? Alka Seltzer et prix littéraire. Hier, le Petit Monde de l'édition a lancé le traditionnel week-end de bamboche généralisé des lettres françaises en célébrant le prix de Flore, attribué au deuxième roman d'Abel Quentin, Le Voyant des Tempes, un texte paru en août aux éditions de l'Observatoire qui met en fiction les fractures générationnelles et qui interroge aussi la cancel culture. À peine remis de ses émotions, Saint-Germain-des-Prés prend ses quartiers dans Limousin pour la dansante foire de Brive au programme foie gras, karaoké, 300 auteurs de bonne humeur à la bonne heure.
La tour Eiffel est toujours là. Bonjour la tour, bonjour, bonjour Paris.
Les gueules de bois aussi pour la Dame de Fer. Malgré un lifting généralisé à 50 millions d'euros entamé en vue des JO de Paris, la Tour Eiffel se trouve bien dépourvue maintenant que la bise est revenue. D'après les prévisions de sa société d'exploitation, le monument parisien devrait voir sa fréquentation divisée par 4 en 2021. Au lieu des 6 millions de touristes habituels cette année, c'est à peine 1,5 million de visiteurs qui sont venus profiter de la vue et des atours de la tour, soit une perte sèche de 75 millions d'euros. En cause, la crise touristique liée au Covid, le passe sanitaire et une fermeture imposée de 9 mois, c'est dur. Sleep in the City, à l'occasion de la sortie de la mini-série And Just Like That, suite du show culte de la fin des années 90, Sex and the City, Sarah Jessica Parker s'associe à Airbnb, figurez-vous, pour proposer une expérience qui ravira les fans nostalgiques de Carrie Bradshaw et de sa bande. Les 12 et 13 novembre prochains, il sera possible pour deux heureux élus, et leur plus un, de passer une nuit dans l'appartement new-yorkais de l'héroïne de la série, entièrement recréé pour l'occasion au programme essayage de tenue de tournage, séance de stylisme, visite de Manhattan. Le tout pour la modique somme de $23, ouverture des candidatures lundi. Wait for me, Carrie.
Les poursuites, les rafales, le bon shit, c'est nous. À 200 avec les 100 sur le péril, c'est nous. Les mythos, les bouffons.
Enfin, ici, c'est Paris. Après des semaines de teasing, le rappeur phénomène Jules dévoile aujourd'hui son nouveau projet événement sur la compilation Classico Organisé. Il réunit plus de 150 rappeurs parisiens et marseillais pour orchestrer la rencontre des deux places fortes rivales du foot et du hip-hop français. En tout, 30 morceaux pour un triple album sur lesquels on retrouve les meilleurs punchliners du game, La Crime, Rof, Caris, Gims, Fianso, Oxmo ou encore Alonso. Ça s'annonce chaud, chaud, Classico, c'est organisé, c'est livré, c'est validé. Et le comédien du français, Denis Podalydès, invité de Boomerang, pour parler de ce que c'est que de participer quand même à la naissance d'un spectacle, en l'occurrence La Nuit des Rois, pièce majeure de Shakespeare. Vous y jouez le rôle du duc Orsino, et Thomas Ostermayer a voulu que vous soyez en string, Denis, avec une ceinture en cuir. Est-ce que vous étiez à l'aise?
Non, pas du tout. Quand la costumière Nina Vels m'a dit, Thomas et moi, nous aimerions beaucoup que tu sois en string, ça ne te pose pas de problème.
Vous étiez épouvanté.
J'étais totalement épouvanté.
Vous le dites.
Et alors, la confiance en même temps dans laquelle j'étais, les exercices qu'on a fait tous ensemble ont fait que, très vite, je pouvais me promener au milieu de mes camarades en string, bedaine à l'air, quasiment bourse,
oui,
visible, si je peux dire. Enfin, pas visible, non, qu'est-ce que
je me promenais, bourse visible, comme chacun sait.
Non, mais quand vous êtes en string, quand même, c'est très...
Ah, ça ne m'arrive pas souvent, non, Denis. Non. Mais cela dit, ce qui est très intéressant, c'est que vous dites que vous avez réprimé votre pudibonderie, on vous en félicite, hein, dans le Boomerang. Dans quelle mesure la pudibonderie est-elle incompatible avec le métier d'acteur?
Ah, bonne question. La pudeur, c'est bien. La pudibonderie, c'est pas bien. La pudibonderie, c'est une sorte de réflexe culturel et qui vient de l'éducation, qui vient de formes d'inhibition. Donc le métier d'acteur vous enseigne à vous défaire des inhibitions.
Oui, ce costume, en fait, qui vous expose beaucoup plus qu'il ne vous couvre ou ne vous protège, on parle bien du string, invite aussi à s'interroger sur ce que devient le corps de l'acteur une fois qu'il est sur scène. Que devient, en fait, votre corps dès l'instant où vous incarnez un personnage?
À un moment qu'il soit quasiment nu, finalement, il est habillé, il est revêtu d'une mise en scène, il est revêtu d'une histoire, les mots l'habillent, en fait. Parce que je pense que le spectateur, au bout d'un moment, ne perçoit pas forcément un homme ou une femme dénudée, mais il le perçoit pris dans la trame d'un texte, d'une histoire, d'une poésie. Donc tout ça crée un habillage. On n'est pas dans la nudité pornographique.
C'est magnifique, ce que vous nous dites, c'est que vous êtes des mots, en fait, quand vous êtes sur scène.
Je crois, oui. Oui, parce qu'un texte, ça innerve non seulement ça une situation, mais des corps. Les gens finissent par avoir, je pense, sous les yeux quelque chose qui est de l'ordre du langage.
Et ça vous permet de vous abandonner complètement. Vous l'écrivez, page 236. Qu'est-ce que ça veut dire, en fait? Quel travail est-ce que c'est d'apprendre à s'abandonner entièrement à ce qu'on est? C'est une phrase qui résonne particulièrement dans votre texte, Denis Podalydès.
Parce que j'ai eu le sentiment aussi que Thomas Ostermeyer est un metteur en scène qui provoque ça. Un abandon au sens aussi, on abandonne, on oublie des affects, on oublie une sorte de personnalité, une individualité restreinte. On va vers ce qui est à la fois l'ordre du personnage, mais aussi de s'enfoncer dans le texte. On va vers un refus de la maîtrise.
Est-ce que ça veut dire qu'on joue mieux quand on est presque nu?
D'une certaine manière, oui.
Pourquoi est-ce que vous êtes devenu comédien, Denis Podalydès? Est-ce que vous avez fini par le savoir?
J'aimais ça. Je sais pas. Vous vous rappelez la réponse de Beckett, bon qu'à ça. J'avais ce sentiment-là, quand c'était ça. Pourtant, j'ai très longtemps refoulé ce désir-là parce qu'il me semblait un peu impur. Je voulais me consacrer à l'enseignement. Ma mère est professeure d'anglais, donc c'est quelque chose qui était très prestigieux. Peut-être mots de mes comédiens, la fonction de comédien manquait de prestige si je l'associais pas, notamment à être aussi metteur en scène et écrivain.
Oui, c'est ça. Il y avait cette idée quand même de prolonger un amour de la littérature.
Oui, exactement.
Un amour des mots. Aujourd'hui, écrire, quel sens est-ce que ça a pour vous, qui rêviez d'être écrivain et dramaturge qui publierait dans la Pléiade?
Aujourd'hui, j'aime écrire en tant qu'acteur. Vraiment rapprocher le plus si je peux et d'être un acteur qui, même quand je joue, quand je joue un grand texte, j'ai la sensation d'essayer, comme si je voulais l'écrire, comme si j'étais en train de le réécrire.
Et diriez-vous que c'est un acte, l'écriture?
Ah oui.
Un acte sacré?
Sacré? Je sais pas s'il est sacré. Je sais pas si je pourrais, moi, aller jusque-là. Parce que je sais ce qui me sépare aussi d'un vrai écrivain.
Ah.
Que je n'y consacre pas. Je pense qu'un vrai écrivain, il y consacre tout son temps. Tout son temps. Moi, je n'y consacre... C'est qu'un temps marginal. Alors, mais après, je laisse le lecteur, ou c'est vous qui le déciderez.
Pourtant, c'est un acte de mise à nu. Pour vous?
Oui. Ah, forcément. Je crois que je me rends compte d'ailleurs, quelquefois, que quand on écrit, il y a une mise à nu parce que des proches viennent trouver dans vos phrases, quelquefois, quelque chose. Et vous dites, qu'est-ce que t'as voulu dire là? Et alors là, ça, d'un seul coup, ça explose. Vous avez l'impression d'être plus à nu en deux mots
qu'en string.
Exactement. Mais c'est vrai, ça.
On va reparler évidemment de mise à nu, de mise en scène, de mise en mots avec vous juste après. The Fantastic Four, tiens, en 1967, The Whole World's a Stage, vous connaissez l'expression.
Oui.
Vous êtes sur France Inter avec Denis Podalydès. Vous écoutez Boomerang, évidemment.
The curtain goes up, the scene is a brawl.
France Inter, Boomerang, Augustin Trapenard.
Non, mais c'est parce qu'il est difficile à cerner, hein. C'est toujours ça avec les acteurs, remarquez, on ne sait jamais vraiment qui ils sont, ils avancent masqués. Lui, à vue de nez, je dirais qu'on est entre Frère Jacques, Sonnet les Matines, le coquin, Sganarelle et le poussin. L'œil en forme d'étonnement perpétuel, le sourire rêveur solitaire, le cheveu vent debout, avec son petit polo mauve. C'est Versailles ce matin. Denis Podalydès, invité de Boomerang, pour parler de monde. Celui évidemment du théâtre, un monde qui, à vous lire, vous occupe tout entier lorsque vous vous immergez dans un nouveau spectacle. Et vous avez dit quelque chose qui m'a passionné tout à l'heure. Dans quelle mesure être comédien, c'est aussi souvent se couper du reste du monde, se couper de la vie?
Oui. Le temps des répétitions est un temps, c'est souvent qui me frappe, le fait de répéter, c'est-à-dire recommencer, redire, suspend le temps, arrête le temps d'une certaine manière. Chaque jour, on revient sur la même chose, on revient sur la même scène, on revient sur les mêmes mots, on ressasse. Et la vie, en même temps, continue. Et je crois que c'est arrivé à beaucoup d'acteurs, soudain, on commence à jouer la pièce, ou on arrête, et toute la vie qui s'est écoulée dans notre dos, si je peux dire, nous revient en pleine figure, ouais. Et on a l'impression qu'on a manqué à tout.
Vous savez, je pense à ces très belles pages où vous dites que le spectacle est un obstacle entre vous et les autres, entre vous et votre frère Bruno, qui vient de se faire hospitaliser, par exemple. Ces pages où vous parlez de votre mère, que vous n'avez pas appelée depuis des semaines, et dont la solitude vous apparaît dans toute sa cruauté, écrivez-vous.
Oui. Ça, je pense que c'est le fait de ben c'est le fait de répéter, justement, le fait d'être dans la redite de quelque chose, fait que ça devient obsédant. Oui. Répéter quelque chose et ressasser, c'est obsédant.
Et d'ailleurs, ce qui vous plaît le plus dans cette pièce, La Nuit des Rois, que vous répétez, c'est le fait qu'on y entende si souvent le mot frère, qui résonne avec cette absence perpétuellement. Ce mot frère, qu'est-ce qu'il vous évoque tout de suite, à vous, Denis Podalydès?
Mes frères, mes trois frères, dont un est disparu. La fraternité, le fraternel, c'est pour moi... j'ai grandi dans la fraternité. Nous étions quatre, mon frère Bruno, mes frères Eric et Laurent. Donc je suis fait de ça. C'est le fait que mon identité, elle est répartie dans cette fraternité. J'ai pas l'impression, si le tout de moi, si vous voulez, est contenu dans les quatre frères, dans une famille. Et aujourd'hui, c'est la famille avec ma compagne, mes enfants, qui font mon identité. Je ne m'arrête pas à moi-même. Par contre, quand je suis acteur, forcément, je suis obligé de m'arrêter à moi-même.
Il y a ce frère, effectivement, Eric, dont vous parlez, dans Les Nuits d'amour sont transparentes, et qui apparaissait quelque part, je me souviens, dans une scène bouleversante de Liberté Oléron. Est-ce que travailler un rôle, Denis Podalydès, ça fait toujours ressurgir des fantômes?
Oui. Le théâtre a à voir avec les fantômes. Et alors ça, avec Shakespeare, on est servi. C'est Hamlet, quand je suis entré à la Comédie Française, c'est la première chose qui m'a frappé. Après, je suis devenu le 505e sociétaire, c'est-à-dire j'avais l'impression qu'il n'y avait que 500 personnes qui me séparaient de Lagrange, qui était un homme du XVIIe siècle. Donc soudain, tous ceux qui m'avaient précédé étaient quasiment présents. C'est une sensation très forte, difficile à décrire, et que ressentent les acteurs de la Comédie Française.
Ils vous parlent.
On est précédé, et il y a ceux qui vont nous suivre aussi. On va partir. Il y a un moment, moi aussi, je sens l'âge venir, et je sens que je suis petit à petit aussi poussé vers la sortie. Il y a d'autres rôles, d'autres acteurs qui vont jouer aussi les rôles que j'ai joués.
Quel genre de fantômes est-ce qu'ils sont, ces acteurs?
Ce sont des fantômes bienveillants. Ce ne sont pas des fantômes qui font peur.
Ils vous disent quelque chose, ils vous parlent?
Oui, ça susurre, c'est dans un souffle, c'est dans une seule présence. Ça ne va même pas jusqu'à la phrase dite ou la phrase formulée, ça ne va même pas jusqu'à la pensée.
Mais ce qu'ils disent, c'est leur métier, c'est leur travail, c'est leur rôle.
C'est un sentiment de la beauté, moi je dirais, une sensation de la beauté. Qu'au théâtre, on a un certain rapport à la beauté de ce qu'est la beauté du théâtre, de faire renaître, surtout au théâtre français, on est un théâtre d'alternance, de répertoire, les textes anciens nous travaillent. On est aussi dans une époque où parfois des choses se recouvrent tellement vite, la société oublie tellement de choses, et c'est normal, parce que il y a des choses qui deviennent de plus en plus anciennes, comment les faire revenir au présent. On est quand même travaillé, on est requis par ça.
Je voudrais faire ressurgir avec vous ce matin un texte ancien. Je voudrais appeler les fantômes, en l'occurrence le fantôme de Rousseau, et la rêverie, une rêverie du promeneur solitaire que vous avez choisi de nous lire, Denis Podalydès. Quel rêveur est-ce que vous êtes avant toute chose, vous ?
Moi, j'ai eu tendance à m'appeler... Je me rappelle une prof d'anglais qui m'avait dit « Denis, you are a daydreamer
oh, ».
Un rêveur en plein jour.
Ouais.
Parce que je passais mon temps à rêver, je décrochais. J'ai pas vraiment décroché scolairement, mais j'ai décroché en cours.
Elle vous appelait Denis ou Dennis ?
Oh, Dennis. Elle m'appelait Dennis. Oui, oui, Dennis. Chère Madame Gallet et Madame Pépin le Valeur.
Ah bon,
des deux professeurs d'anglais que j'ai adorés et qui étaient des substituts maternels puisque ma mère était professeure d'anglais.
Non, là, on va trop loin. Là, vraiment, on va trop loin. Rousseau.
Donc, revenons.
Rousseau.
Ouais. Alors, c'est la première page des rêveries. Me voici donc seul sur la terre, n'ayant plus de frères, de prochains, d'amis, de société que moi-même. Le plus sociable et le plus aimant des humains en a été proscrit par un accord unanime. Ils ont cherché dans les raffinements de leur haine quel tourment pouvait être le plus cruel à mon âme sensible, et ils ont brisé violemment tous les liens qui m'attachaient à eux. J'aurais aimé les hommes en dépit d'eux-mêmes. Ils n'ont pu qu'en cessant de l'être se dérober à mon affection. Les voilà donc étrangers, inconnus, nuls enfin pour moi, puisqu'ils l'ont voulu. Mais moi, détaché d'eux et de tout, que suis-je moi-même ? Voilà ce qui me reste à chercher. Malheureusement, cette recherche doit être précédée d'un coup d'œil sur ma position. C'est une idée par laquelle il faut nécessairement que je passe pour arriver d'eux à moi. Depuis 15 ans et plus que je suis dans cette étrange position, elle me paraît encore un rêve. Je m'imagine toujours qu'une indigestion me tourmente, que je dors d'un mauvais sommeil et que je vais me réveiller bien soulagé de ma peine en me retrouvant avec mes amis. Oui, sans doute, il faut que j'ai fait, sans que je m'en aperçusse, un saut de la veille au sommeil, ou plutôt de la vie à la mort. Tiré je ne sais comment de l'ordre des choses, je me suis vu précipité dans un chaos incompréhensible où je n'aperçois rien du tout. Et plus je pense à ma situation présente, et moins je puis comprendre où je suis. En fait, c'est peut-être pas tant la misanthropie dans laquelle il est plongé, et aussi la paranoïa de Rousseau, que cet état d'incertitude dans lequel il est, privé de l'amour des autres, qu'il a aimé en dépit d'eux, il ne peut plus comprendre où il est.
Et cette question, qui n'est pas qui êtes-vous, mais qu'est-ce que vous êtes, que je devrais poser plus souvent qu'à mon tour, Denis Podalydès, je vous la pose. Qu'est-ce que vous êtes, tiens, vous ?
Ouf. Oh là là, qu'est-ce que vous êtes ?
Des mots.
C'est la dernière phrase des mots de Sartre, un homme qui les vaut tous et que vaut n'importe qui, quelque chose comme ça. Quelque chose. Je me nourris énormément d'une forme de banalité ou de normalité dans laquelle je suis. Parce que ça, en tant qu'acteur, ça me renseigne beaucoup sur les autres. Je me dis, qu'est-ce que je sens? Si ce que je sens est à la fois sensible et banal, je sens que je suis plein d'autres en même temps.
Si on pouvait en avoir autant de cette banalité, de cette trivialité tous les matins dans cette émission, merci infiniment Denis Podalydès d'être venu faire un tour.
Ah bah ouais.
Donc bon, je rappelle que Les Nuits d'amour sont transparentes, votre nouveau livre est publié au Seuil. Je dis aussi qu'on pourra vous retrouver à partir du 18 novembre au Théâtre des Bouffes du Nord, dans La Dispersion du paysage, un texte de Jean-Philippe Toussaint. On a hâte de vous voir sur scène toujours, merci à vous et merci à toute l'équipe de Boomerang cette belle semaine, Lola Costantini, Perrine Malinge, Léonard Biot, Pierre Démé, Jérôme Humbert et Jean-Baptiste Dibert. Tout de suite les médias, Eva Rock et son Instant M, c'est juste après ça.
Compagnon des mauvais jours, je vous souhaite une bonne nuit.
Bonne nuit.
Et je m'en vais, la recette a été mauvaise. C'est encore une fois de ma faute. Tous les torts sont de mon côté. Alors je m'en vais. J'aurais dû vous écouter. J'aurais dû jouer du caniche. C'est une musique qui plaît.
J'aurais dû nous écouter.
Et je n'en ai fait qu'à ma tête. Et puis je me suis énervé. Compagnon. tard, quand vous serez réveillé, pensez à celui qui joue du phoque et du saumon fumé au bord de la mer. Les mauvais jours, les mauvais jours, les mauvais jours, compagnons des mauvais jours, que vous souhaitez une bonne nuit. Et je m'en vais, la recette a été mauvaise. Quand on joue du chien à poil dur, il faut ménager son archet. Alors je m'en vais, et j'en ne viens pas au conseil pour entendre hurler à la mort. Cette chanson de la Fourrière nous a causé le plus grand tort. Compagnons.